CFM Villefranche, le mag.
Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Le magazine d'actualité, oui, édition de ce jeudi 7 mai, magazine en deux temps, avec aujourd'hui la diffusion d'un entretien réalisé avec Margot Bisson, artiste lauréate 2025 du prix du département pour l'art contemporain, 15e édition du prix de la jeune création, organisée par l'Atelier Blanc, et c'est Katel Ouzet, la coordinatrice générale, qui l'a rencontrée pour nous. Diffusion de cet entretien donc tout à l'heure, après la traditionnelle revue de titre du jeudi, tour d'horizon des titres dans l'actualité, à l'occasion donc de la parution du jour, revue de titres présentée par Eric Lachon au bout du fil. Bonjour Eric.
Bonjour David.
Revue de titres qui débute aujourd'hui avec le dossier de la semaine.
Le dossier de la semaine est consacré à un sujet vraiment du moment à Villefranche, c'est un sujet consacré à la taxe foncière, puisque le conseil municipal de Villefranche a voté l'augmentation de 8,8% du taux appliqué pour cet impôt. Nous vous avons voulu aller plus loin, comparer avec les autres villes de la même strate de notre secteur. Également, de nous poser la question de savoir pourquoi ça augmente. Hein. Là, on se pose clairement aussi la question des charges de centralité qui incombe à des villes moyennes comme Villefranche et qui ne pèsent pas sur d'autres communes plus petites et qui n'ont pas les mêmes équipements, bien sûr, à leur disposition. Et également aux enjeux d'attractivité qu'il y a derrière cette taxe foncière, puisque beaucoup de couples, au moment de s'installer, peuvent avoir l'envie d'opter pour des communes de la proche ceinture de Villefranche, où la taxe foncière est beaucoup moins élevée. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là que nous avons traités dans notre dossier de la semaine.
On poursuit avec l'arrivée de la semaine, c'est la revue de titre.
L'arrivée de la semaine, c'est celle de Lionel Courcière, c'est le nouveau patron des pompiers de Villefranche. Donc il succède à Frédéric Sarr qui avait pris ses fonctions dans notre ville en 2020. Donc après 6 années passées à la tête du centre de secours de Villefranche, il tourne une page et se dirige vers Odesse, où il va prendre un poste au sein de l'état-major départemental. Voilà. Donc bienvenue à Lionel Courcière, qui est un villefranchois. Voilà, toute la famille Courcière est villefranchoise, donc c'est un villefranchois à la tête des pompiers villefranchois.
L'élection de la semaine, c'est la suite de la revue de titre.
L'élection de la semaine, c'est celle de Jean-Marc Calvé, le maire de Rignac, également président de la communauté du pays rignacois, qui reprend pour un deuxième mandat la tête de l'association des maires de l'Aveyron. Voilà, donc c'est une élection qui a eu lieu lors de l'Assemblée Générale de cette association. Et on reste dans la continuité avec bien évidemment de nombreux défis pour les maires de notre département, hein, comme pour tous les maires d'ailleurs en France, avec ces questions de désengagement budgétaire de l'État, ces problématiques liées à la ruralité, et voilà, et avec ça viennent se combiner maintenant les difficultés de transport liées à l'augmentation du prix des carburants. Bref, beaucoup, beaucoup de sujets sur la table des maires de notre département, qui sont donc présidés par Jean-Marc Calvé.
La revue de titre est l'essentiel de l'actualité par liaison téléphonique aujourd'hui, vous l'aurez entendu, présentée par Eric Lachon, chef d'édition, journaliste au Villefranchois, à la suite avec l'info judiciaire de la semaine.
L'info judiciaire de la semaine, c'est la demande de la famille d'Audrey qui a été tuée donc par Cédric Prison après un enlèvement qui s'est déroulé à Bayonne. Et donc la famille, via son avocat, dépose une demande auprès du Portugal pour que le procès de Cédric Prison ait lieu en France. Pourquoi cette demande pourrait aboutir, malgré le fait que les faits se soient produits au Portugal? Eh bien parce que les victimes sont françaises et que le présumé meurtrier est lui aussi français, et que le début de cette affaire, hein, à savoir l'enlèvement d'Audrey, a eu lieu en France. Donc on pense que le recours va être déposé déjà dans un premier temps et puis qu'il y a des chances d'aboutir. On suivra le dossier, bien sûr.
L'info économique de la semaine, c'est la suite de la revue de titres.
C'est l'implantation de postes d'Alsacien. Un grand bâtiment est aujourd'hui en cours de construction. C'est assez énorme. C'est situé donc, entre Decazeville et Viviers. C'est le premier Chronopost, c'est le premier opérateur de livraison de colis en France, et il vient se rapprocher ainsi de notre zone avec la création de 50 emplois directs et indirects. L'investissement est assez important puisqu'il est de 6,8 millions d'euros. Et voilà, après quelques belles implantations sur le secteur du bassin, bien ça vient conforter cette reprise économique sur un bassin de vie qui en a bien besoin.
Les sorties du week-end pour refermer la revue titre de la semaine.
Eh bien, on vous invite à découvrir notre page chronique et sortie qui est très riche cette semaine avec le pont. Bien évidemment, il y a beaucoup de vide-greniers, d'expositions et d'autres rendez-vous autour des fêtes de village. Il y a également le festival des chiens bleus à Najac. Donc là, c'est un rendez-vous assez prisé, on vous en donne la teneur de l'affiche. Et puis il y a également le collectif à petits pas vers la naissance qui organise mardi prochain à 20h30 au théâtre une nouvelle soirée parentalité où on vous convie aussi. Il y a également des rendez-vous, mais alors ça sera pas pour cette semaine, c'est un peu plus tard, autour du cirque à Villeneuve. Voilà, découvrez notre programme dans la page chronique est sortie.
Les titres présentés sont développés dans la parution du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois avec d'autres et l'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. La suite du programme, comme annoncé, diffusion de cet entretien consacré à l'artiste Margot Bisson qui était en résidence pendant un mois à l'Atelier Blanc, lauréate 2025 donc du prix du département pour l'art contemporain. C'était la 15e édition du prix Jeune Création et c'est Catalouzet, la coordinatrice générale de l'Atelier Blanc, qui a rencontré l'artiste pour nous. Voilà, c'est la suite du programme. Merci Eric, excellente journée, belle semaine et à très bientôt.
Au revoir.
CFM Villefranche, le mag. CFM Villefranche, le MAG.
Le magazine d'actualité, la suite avec, comme annoncé, la diffusion de cet entretien réalisé par Katia Louzet, la coordinatrice générale de l'Atelier Blanc, espace d'art contemporain à Villefranche-d'Orouergue. Katia Louzet a rencontré pour nous Margot Bisson, artiste lauréate 2025 du prix du département pour l'art contemporain dans le cadre du 15e prix de la jeune création. Margot Bisson était en résidence à Villefranche-d'Orouergue au mois d'avril et c'est à cette occasion que Katia Louzet l'a rencontrée pour nous. Diffusion de cet entretien.
Margot Bisson est la lauréate 2025 du prix du département pour l'art contemporain, dont l'Atelier Blanc est partenaire. Elle est accueillie en résidence à Villefranche-d'Orouergue en avril et reviendra en septembre-octobre pour un second temps de création et des actions pédagogiques. Artiste-chercheuse, elle conçoit des performances et des installations où elle convie l'écriture, la vidéo et la mise en scène. Les œuvres qu'elle déploie sont à la fois poétiques et politiques. Elles explorent la fête, le lien social, le tabou de la mort en Occident et l'écoféminisme. En lien avec le patrimoine immatériel du département, elle s'intéresse aux rites funéraires dans une perspective d'écologie et de résilience. Bonjour Margot.
Bonjour.
Comment ça se passe ce premier séjour en Aveyron ?
Eh bien, c'est très riche de rencontres, puisque j'ai eu le souci de vraiment m'immerger dans le territoire en comprenant aussi ses habitants et ses habitantes. Donc j'ai fait des riches rencontres, qui est à la fois professionnelles, mais aussi de l'ordre du quotidien, en rencontrant des habitants qui avaient des histoires à me raconter sur des parcours de deuil, des parcours de vie, des relations intimes parfois à la mort, et qui venaient se compléter aussi avec des connaissances parfois plus étayées sur le plan historique ou scientifique. Et du coup, sur ces 4 semaines de résidence, il y a eu une première semaine où j'ai rencontré, une deuxième semaine où je me suis intéressée aux vautours dans le sud Aveyron, et une troisième semaine où je me suis consacrée plutôt à la partie culinaire des rites funéraires. Et la quatrième semaine là, que j'aborde va me permettre de rassembler toute cette matière.
Avant qu'on rentre un peu dans le détail de ces 4 sujets, 4 thématiques, territoires d'exploration, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ta démarche artistique, peut-être donner quelques clés ?
Oui, alors moi je suis artiste, je dirais transdisciplinaire, c'est-à-dire que mon médium principal c'est la performance, mais ça m'amène à travailler l'installation, la vidéo, la photographie. En fait, je convoque tous les médiums dans le but de créer des espaces et des moments à partager dans une optique de rituel, c'est-à-dire de créer des actions communes qui va faire lien social, qui va donner des liens de compassion aussi à une communauté qui va se former autour de l'œuvre. Et c'est pour ça que je dis souvent que je m'appuie sur la question de la sculpture sociale qui est apparue dans les années 60-70, je crois. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de sculpter des objets. Par exemple, quand on dit création artistique, on pense à des peintures ou des sculptures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sculpter justement une communauté autour d'un moment. Et donc c'est vraiment sur ça que se base ma pratique. Et je me suis formée plutôt dans le domaine, enfin à la croisée des recherches en sciences humaines et de la création artistique, donc ce qu'on appelle la recherche-création à l'université. Et dans ce parcours, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'écosophie, donc à une écologie qui comprend des aspects liés à l'environnement, mais aussi au tissu social, à la santé mentale. Et dans toute cette recherche, j'ai croisé à un moment donné dans mon parcours la question de la finitude, de la mort, de la vulnérabilité qui fait notre point commun en tant qu'être humain et aussi être dans le monde. Et c'est à partir de ça que je travaille pour aussi réfléchir à des enjeux à la fois intimes et collectifs.
Pendant ces 4 semaines en Aveyron, du coup, pour préparer ton deuxième temps de création, tu es allée à la rencontre d'habitants, d'historiens, d'animaux aussi, et de producteurs de safran. Comment tout cela se relie, ces recherches, cette thématique, quelle histoire finalement tu es en train de construire un récit pour nous faire des propositions à l'automne ?
Eh bien, j'avais l'envie de, c'était un peu un pari pour moi, de tresser une éco-histoire de la mort en Aveyron. Je dis éco-histoire parce que j'avais ce besoin et cette envie d'inclure le non-humain aussi à la réflexion funéraire. Je pars d'une spéculation, on va dire, historique, qui serait que le corps de Jean Petit, qui est donc un révolutionnaire croquant qui a été supplicié sur la place Notre-Dame à Villefranche pour avoir conduit une révolte paysanne contre la taxe royale, son corps aurait été non pas exposé à la vue de tous et toutes, ce qui a traumatisé les habitants, mais aurait plutôt été emporté par les vautours. Vautours qui, eux, sont vraiment des écarisseurs écologiques, qui sont presque des experts funéraires non humains et qui sont aussi des bio-nettoyeurs, comme on dit. Ils sont absolument essentiels à la santé des environnements, mais ce sont des animaux qui sont mal aimés. Il y a beaucoup de croyances autour du fait que les vautours sont des prédateurs qu'ils attaquent, et j'avais ce besoin aussi de changement de regard sur ces oiseaux-là pour en faire des alliés dans un imaginaire. Alors je dis pas que ce serait des techniques ou des compétences ou des méthode viable du point de vue funéraire. Moi, c'est plutôt l'idée d'ouvrir un imaginaire qui serait de peut-être collaborer avec le non-humain dans notre manière de transformer nos corps, nos défunts, d'avoir une relation au paysage à travers la mort. Et donc, à partir de cette histoire que moi, je viens un peu tordre, j'enchasse des échelles différentes d'histoire. Et donc, il y a à la fois cette mémoire des croquants, et de la paysannerie, de la souveraineté. Il y a cette question environnementale avec les vautours. Il y a une troisième brique qui serait plutôt les deuils actuels en territoire, puisque j'ai rencontré des personnes qui m'ont confié des deuils. Et puis il y a une quatrième brique qui serait les rituels funéraires vernaculaires, c'est-à-dire liés au territoire, à des pratiques qui sont oubliées peut-être. Notamment, il y a le mortairol, qui est cette soupe aveyronnaise qui est servie pour des repas de fête, mais beaucoup dans le canton villefranchois, à l'occasion des enterrements. C'est une soupe de pain au safran qu'on va revisiter lors de ce banquet funéraire. Il y a aussi tout un rapport entre la foisse et l'enterrement. La foisse, c'est ce gâteau traditionnel que tout le monde connaît en Aveyron, mais qui a une place particulière au sein des enterrements. Et donc j'ai rencontré un spécialiste de la foisse qui m'a raconté pas seulement sa recette, mais même sa pensée de la foisse, sa philosophie de la foisse. Effectivement, à la Capelle Blaise, j'ai rencontré Georges, qui, lui, est producteur de safran, qui m'a plus parlé de ses propriétés gustatives, voire tinctoriales. Et j'ai mené ces expérimentations culinaires avec Capucine Brice, qui est une amie et collaboratrice, designeuse culinaire, et qui accompagne les étapes pour concevoir un banquet funéraire. Et ce banquet funéraire, c'est pas seulement un repas, c'est une manière de goûter, d'incorporer par la nourriture des concepts plus larges, parfois plus vaporeux. Et c'est la matière nourriture qui va nous permettre de traverser toute cette histoire et cette éco-histoire.
Et du coup, ça, c'est tout ce qui va se préparer pour l'automne, pour ta deuxième période de résidence en septembre-octobre, où toutes ces collaborations, finalement, vont se réunir pour, à travers aussi des actions pédagogiques, mais aussi un moment partagé, dont tu nous parlais tout à l'heure, de partager un rituel autour de ces questions.
Oui, voilà, c'est l'envie de concevoir ce banquet comme une traversée qui sera en trois temps, où on va d'abord parler du deuil humain, puis dans un second temps, dans un autre tableau culinaire, on va plutôt parler de ce qu'on appelle la nécromasse. Donc cette masse de matière organique dans le sol qui nourrit aussi tous les végétaux dont on se nourrit. Donc il y a un rapport alimentaire aussi à la mort. Et puis dans un troisième temps, il y a la question de la curée des vautours. La curée des vautours, donc c'est le repas des vautours. Et donc il y a ces trois tableaux qui vont concevoir un voyage, ce que j'appelle un voyage dans une écologie de la mort, puisque en dehors de cette résidence en Aveyron, j'ai ce que j'appelle une recherche fleuve autour de notre rapport à la mort à l'heure de l'Anthropocène, donc de cette ère géologique marquée par l'activité humaine. Et donc, selon les territoires que je rencontre, ça prend pas la même forme, mais ça donne lieu à ce voyage dans une écologie de la mort, c'est-à-dire que je suis un peu de territoire en territoire, une colporteuse d'un imaginaire écologique de la mort. Et ce qui m'intéresse, pour compléter ce que je disais précédemment, en Aveyron, le fait que moi je viens un peu exhumer cette mémoire de Jean Petit, c'est que Jean Petit, lui, il n'a pas seulement conduit une révolte paysanne, c'est qu'il a porté aussi un projet social et politique, un projet de justice sociale, d'autonomie des citoyens et citoyennes dans leur cité, par cette occupation, par cette commune croquante. Et en fait, il en émerge la question de la souveraineté citoyenne. Et aujourd'hui, dans le funéraire, il y a tout un mouvement qui se crée par des professionnels funéraires et par des citoyens et citoyennes pour parler de la souveraineté funéraire. C'est-à-dire que depuis au moins le 19e siècle, il y a le poids d'une industrie funéraire qui est responsable de nos rituels funéraires qui s'émoussent, qui se perdent. Et il y a une dépossession aussi de nos choix face aux funéraires, face à ce qu'on veut pour nos proches. Dans le féminisme, on dit nos corps, nos choix. Et bien dans la mort, c'est pareil. Et donc, parler de souveraineté de Jean Petit, c'est aussi faire le lien avec des contextes actuels de souveraineté, cette fois-ci funéraire, comment on se réautonomise. Et du coup, pour finir la réponse à cette question de moment collectif, de rituel, eh bien, je pense que là, je fais un peu un cheval de Troie, je pirate un peu le contexte artistique, mais pour dire que c'est, moi, je me sers de l'art, en fait, pour qu'on recrée des espaces-temps liés à la mort dans la cité avec un grand C. Et donc, c'est en ça que consistera ce banquet.
Et puis, tu te sers de l'art aussi pour faire du lien et collaborer et faire des ponts entre des personnes ou des disciplines, des mondes qui ne se côtoient pas forcément aussi et qu'on va retrouver dans ta recherche et autour du banquet.
Oui, oui, vraiment. Et j'emprunte une expression d'un officiant funéraire que je connais bien qui lui dit qu'il est un passe-plat quand il fait une cérémonie d'enterrement. Et je crois que dans ma pratique, je suis un peu le passe-plat. C'est-à-dire que je viens... Je viens permettre des rencontres, je viens permettre une imbrication de forces vives qui sont déjà là. Moi, je ne les ai pas inventées, je viens plutôt les valoriser. Et quand j'arrive, ce qui est passionnant, c'est que dès la première semaine, j'ai vu tout l'écosystème de liens en fait, qui existe, qui était sous-jacent autour de cette question de la mort à Villefranche-de-Rouergue, entre des gens qui se connaissent.
Donc, des historiens.
Voilà. Il y a Patrice Le Sueur que je vais rencontrer, qui est donc historien, qui connaît très bien la révolte des croquants, qui est lié à Elisabeth par l'intermédiaire de Lutte populaire en Barouergue, qui est cette édition qui a revalorisé la lutte croquante, mais pas que. Et donc, Elisabeth fait partie de l'Atelier Blanc. Il y a Casimir qui, lui, fait de l'osier. Il y aura notamment une création en osier pour porter une foisse pendant le banquet. Il y a également Catherine que j'ai rencontrée. Catherine qui est une habitante de Villefranche, qui est psychologue et qui est spécialiste du deuil périnatal. Donc on a beaucoup parlé aussi du deuil périnatal. Qui j'oublie d'autres ?
La LPO.
La LPO Aveyron et la LPO Grand Causse, qui m'a permis de rencontrer des chargés d'études spécialistes de la conservation, de la protection des autour. Je me suis rendue sur un charnier près de Millau où j'ai observé pendant 2 jours la curée des vautours en présence de Thibaut Mazard qui lui est cadreur, chef opérateur qui a filmé avec et pour moi cette curée des vautours qui donnera lieu donc à un film, à une œuvre d'art vidéo où nous verrons les vautours manger. Qui j'oublie d'autres, l'IOA.
L'IOA, les musiciens.
L'IOA, donc l'Institut Occitan à Aveyron, Occitanie, l'IOA, Institut Occitanie Aveyron. Qui mène un travail formidable qui s'appelle Alcantou, qui est un programme de recensement de tout le patrimoine matériel, mais surtout immatériel occitan aveyronnais. Ça a donné lieu à une publication et j'ai pu rencontrer donc Patricia et Jean-Luc qui mènent ce projet, qui ont mené ce projet et qui m'ont transmis une matière absolument passionnante sur les rituels funéraires, donc le mortail roll notamment, mais pas que, la pratique du linceul qui est très particulière en Aveyron, que certaines poignées de cercueils étaient faites de telle manière spécifiquement en Aveyron, toute cette matière, qui a l'air de l'ordre de l'anodin, mais qui constitue ce patrimoine. Je les ai rencontrés. Qui d'autre ai-je rencontré ? Je trouve que c'est pas mal.
Des musiciens. Je pense que tu m'avais aussi parlé de musiciens.
Oui.
Et justement, en lien avec ces rituels et cette présence aussi de la musique.
Oui. Eh bien, oui, j'ai rencontré Igor, qui est présent sur beaucoup de tableaux à Villefranche-de-Rouergue, mais notamment l'atelier hors cadre de sérigraphie, et qui est aussi joueur de cabrette. Et il va contribuer aussi peut-être à me mettre en lien avec des musiciens et musiciennes, dans le but aussi de valoriser un répertoire musical lié au chagrin, au deuil, mais aussi à la fête. Et ce qui m'intéressait, c'était de revisiter cette fameuse comptine Jean Petit qui danse, puisque Jean Petit qui danse, en fait, ce n'est pas une comptine qui apprend les parties du corps aux enfants seulement. C'est une comptine qui existait avant, paraît-il, le supplice de Jean Petit, mais avec Jean Petit, ça a permis de décrire, en fait, les morceaux de son corps qui ont été dispersés en place publique. Donc c'est assez, quand même, saisissant, spectaculaire quand on l'aborde comme ça. Mais ça m'intéressait justement de peut-être revisiter cette comptine sous ce jour plutôt du funéraire et du corps, puisque aussi dans toute cette histoire, cette éco-histoire de la mort, ce qui m'intéresse, c'est de voir que souvent, on parle de l'histoire en termes de faits, d'événements, de chiffres, mais jamais par le corps. Et en fait, la révolte paysanne, comme les rituels funéraires, ça vient parler aussi des corps, ça vient parler de ce qu'on fait à nos corps, comment on les vit, comment on les transforme. Et donc, Jean Petit, qui danse, ça parle aussi du mouvement des choses, du mouvement des corps. Voilà.
Et du coup, on se donne rendez-vous à l'automne pour poursuivre ces recherches, cette création, et puis partager ensemble autour de tes propositions, des moments de réflexion, de poésie et de philosophie autour de nos corps et de nos vies.
Oui, et pour finir, je dirais, pour moi c'est important, souvent quand je parle de la mort, il y a un petit mouvement de recul, où on se dit que ça va pas être drôle, que ça va même être triste, et au contraire, moi je veux remettre du baume, du soin, peut-être même de la fête. Il y a un anthropologue qui a conçu ce qu'on appelle les cafés mortels, où il réunit en fait des personnes juste pour parler de la mort, de la vulnérabilité, de leur parcours de deuil. Et c'est même pas des débats, chacun vient en son jeu, J-E, pour partager une tranche de vie et aussi des tranches de deuil. Et ce qu'il dit, c'est que ça produit de la compassion au sein des communautés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des personnes se rencontrent pour partager le fait que ce sont des êtres vulnérables face aux événements de la vie, ça vient produire d'autres effets positifs dans la vie en général, et ça devient festif. Finalement, la mort nous relie, et j'ai vraiment l'envie d'inviter tous les Villefranchois et Villefranchoises à partager ce moment avec la douceur, le soin et l'envie d'être en vie.
Merci Margot.
Merci.
CFM. CFM Villefranche.
C'était Kate Louzé, coordinatrice générale pour l'Atelier Blanc, qui a rencontré pour nous Margot Bisson, lauréate 2025 du prix du département pour l'art contemporain, lauréate dans le cadre de la 15e édition du prix de la jeune création organisée par l'Atelier Blanc. Un entretien à retrouver donc en podcast sur le site cfmradio.fr. Voilà, c'était le mag du jour. Merci de votre écoute. La suite du programme dans un instant et à bientôt sur l'antenne.
CFM Villefranche, le mag.